Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, fébrilité à l'Élysée et au Sénat. Les sénateurs vont décider tout à l'heure de saisir ou non la justice pour parjure après leurs auditions de la commission d'enquête Benalla. Les plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron sont dans le viseur, mais les sénateurs hésitent, vous allez l'entendre. L'Italie, cheval de Troie de la Chine en Europe. Nouveau point sur la carte des routes de la soie. Explication dans un instant, alors que Xi Jinping entame une tournée européenne. Travailler plus pour être sûr d'avoir une bonne retraite. Débat relancé cette semaine. On verra ce qu'en dit votre invité tout à l'heure, Nicolas.
Oui, on essaiera de comprendre avec Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites. Il est au micro d'Inter dans 20 minutes. 01 45 24 7000 pour toutes vos questions. N'oubliez pas les réseaux sociaux et l'application mobile France Inter également.
À la une, également la calamité des chauffards sans assurance. Ils sont de plus en plus nombreux. Un improbable accident dans un Rafale hier. Le passager a été éjecté au décollage sans raison apparente. Fan de Michael Jackson, alors de Living Neverland, un très mauvais moment à passer. Et puis réviser son histoire grâce à Joey Starr. Il rappe l'affaire Dreyfus pour les collégiens et les lycéens.
France Inter.
Alexis Kohlert, secrétaire général de l'Élysée, Patrick Strada, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Ils ont tous les deux passé un sale quart d'heure devant la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla. Mais ce qui les menace aujourd'hui, ainsi que le général Lavergne, chef du groupe de sécurité de la présidence, est d'une toute autre nature et dépendra du vote de 26 sénateurs ce matin. Décideront-ils de saisir la justice pour faux témoignage? Ils le feront certainement pour Alexandre Benalla lui-même et son acolyte Vincent Crase. Mais une enquête pour parjure contre le noyau dur de l'Élysée, ça n'est pas la même chose. Élodie Forêt, et l'enjeu divise les sénateurs.
Ces derniers jours au Sénat, les couloirs bruissent de rumeurs. On parle de pression qu'exercerait la haute administration pour que soient épargnés les trois serviteurs de l'État. Les épargner, c'est aussi le souhait d'Hervé Marseille, président du groupe centriste.
On parle de propos dans lesquels on décèlerait des omissions, des contre-vérités, des ambiguïtés. Pas là des qualifications pénales et ça ne me semble pas être de nature à fonder une démarche judiciaire.
Des centristes plutôt isolés, socialistes, communistes et une majeure partie de la droite souhaitent transmettre ces soupçons de faux témoignages à la justice. François Grosdidier, sénateur LR, faisait partie de la commission d'enquête.
On ne peut pas non plus faire qu'il n'y ait que des lampistes qui payent. De toute façon, c'est la justice qui se prononcera, c'est pas le Sénat. C'est certain que certains, peut-être les centristes, sont peut-être sensibles au fait qu'il faut s'accommoder avec l'exécutif à la veille de la réforme constitutionnelle. Je crois qu'ils seraient très mal inspirés de ne pas assumer pleinement leur rôle parce que ce n'est pas ainsi qu'on se fait respecter.
Une mise en garde qui vaut aussi pour Gérard Larcher, prise en tenaille entre la Commission et Emmanuel Macron, avec qui est en effet négociée la réforme constitutionnelle. Le patron du Sénat, prédit-on au Palais du Luxembourg, qui pourrait s'en sortir en préservant l'un des trois proches du président et avec quelques phrases alambiquées qui satisferaient le Sénat et en même temps l'Élysée.
Et quand on parle de réforme constitutionnelle, on parle de la possibilité de réduire le nombre des sénateurs. Ils seront donc réunis en bureau ce matin à 8h30, alors qu'Alexandre Benalla a de nouveau été mis en examen hier soir pour d'autres violences en marge de la manifestation du 1er mai et pour son selfie arme à la main. L'imbroglio du Brexit au menu du Conseil européen du jour à Bruxelles. Theresa May s'y rendra pour demander officiellement un report de 3 mois. C'est beaucoup trop long pour l'Europe qui organise d'ici là l'élection du Parlement. Bruxelles pourrait donc accepter un délai plus court, à condition que les députés britanniques votent enfin l'accord de sortie. Voilà qui ressemble toujours à une impasse sur laquelle reviendra Pieraski dans quelques minutes.
Il est 8h04 et on ne parlera pas d'ailleurs que du Brexit aujourd'hui à Bruxelles.
Et oui, l'autre sujet brûlant du moment, c'est la Chine. Alors que Xi Jinping entame une tournée européenne attendue à Rome aujourd'hui, nouveau point sur la carte des nouvelles routes de la soie. Ce gigantesque projet de financement chinois qui doit permettre à la Chine d'étendre sa puissance économique. Mathilde Imberti, à l'inverse de la France et des autres grands pays européens, l'Italie n'y voit pas d'inconvénient.
L'Italie serait le premier pays du G7 à rejoindre le projet chinois de nouvelle route de la soie. Un protocole doit être signé samedi en présence du président chinois Xi Jinping, incluant un ensemble d'accords commerciaux dont le contenu reste à dévoiler. Ce sont d'abord les ports de Trieste et Gênes qui intéressent potentiellement les Chinois comme autant d'accès aux marchés européens. Dans ce rapprochement, la Chine n'a rien à perdre. L'Italie, bien davantage, analyse le sinologue italien Francesco Sicci. Il enseigne à l'université du peuple de Chine à Pékin.
Perché Roma Pourquoi visiter Rome avant Paris? Parce que l'Italie jouit d'une primauté culturelle du fait de ses rapports millénaires avec la Chine. En partant de l'histoire, les Chinois veulent repenser leur rapport actuel avec l'Occident. Pour l'Italie, par contre, le risque est de se retrouver isolé, tant de l'Europe que des États-Unis.
Nous faisons un choix de nature purement économique et commercial, se défend le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, rejetant les critiques d'Emmanuel Macron, entre autres, qui plaident pour une approche coordonnée face à Pékin. L'Italie accueille ce soir avec les honneurs le président chinois et sa délégation de taille impériale. Pas moins de 500 personnes l'accompagnent dans sa tournée européenne. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Une approche coordonnée face à Pékin, dit Emmanuel Macron, qui rencontrera Xi Jinping dimanche sur la Côte d'Azur. On verra en attendant ce qu'il en est ce soir à Bruxelles. Et pour l'instant, Louise Baudet, on ne peut pas dire que les Européens soient unis face à la Chine.
À la table ce soir du Conseil européen à Bruxelles, la Chine, première partenaire commerciale des 27, mais aussi rivale, c'est la Commission de Bruxelles qui le dit et qui propose aux États membres 10 mesures pour se protéger de l'empire du milieu. La Chine, accusée notamment de cadenasser son marché intérieur et de viser à l'étranger des secteurs stratégiques pour étendre son influence politique. La naïveté s'est terminée, veulent croire plusieurs États membres qui, sous la pression du Parlement européen, ont fait adopter un mécanisme commun de filtrage des investissements. Sauf que le dernier mot revient aux États. Et que chacun avance en ordre dispersé. L'Italie qui rallie le projet des routes de la soie, c'est une brèche, un cheval de Troie, craignent Paris, Berlin, Londres ou Bruxelles, sachant qu'une dizaine d'autres pays européens ont déjà franchi le pas, notamment à l'Est. Sans oublier une autre route de la soie, virtuelle celle-là, la 5G, marché dominé par Huawei, géant des télécoms chinois, soupçonné d'espionner les communications occidentales. Les États-Unis accusent, les Européens hésitent. L'Allemagne, par exemple, vient d'accepter que Huawei participe à son appel. D'offres.
En France, après le chèque aux impôts tué par le prélèvement à la source, la déclaration de revenus va-t-elle disparaître à son tour? Selon le Figaro, Gérald Darmanin, devant des étudiants de l'ESSEC, a dit qu'il l'annoncera sans doute l'an prochain. La déclaration 2019 à remplir à partir d'avril pourrait-on donc être une des dernières? Conduire sans permis et provoquer un accident, double désastre pour ceux qui croisent la route de ces chauffards. Plus de 30 000 personnes l'an dernier, un chiffre en forte hausse depuis 5 ans, et comme le nombre des chauffards augmente et qu'ils n'ont pas les moyens d'indemniser leurs victimes, c'est effectivement la double peine, Aurélien Accard.
Eh bien, on estime à 800 000 le nombre de conducteurs sans assurance. Ça représente, imaginez, une voiture sur 50 environ en France qui n'est pas assurée. Alors, qui sont ces conducteurs dangereux? Les chiffres du Fonds de garantie permettent de dresser un portrait robot. Dans 76% des cas, c'est un homme. 1 sur 2 a moins de 30 ans et près d'1 sur 3 est au chômage. C'est donc la précarité financière qui explique d'abord cette augmentation du nombre de conducteurs sans assurance. Deux autres profils se dégagent. Le conducteur négligent qui, par exemple, oublie de payer son contrat d'assurance. Et il y a aussi, bien sûr, le vrai délinquant de la route, celui qui roule également sans permis. Ça concerne un quart des accidents impliquant des conducteurs non assurés. Tout cela a des conséquences dramatiques parce que rouler sans assurance pour économiser quelques centaines d'euros, c'est s'exposer à payer toute sa vie en cas d'accident dont le coût total peut vite dépasser plusieurs millions d'euros en cas de décès ou de blessure corporelle importante. Quant au fonds de garantie qui, lui, indemnise les victimes, il voit son déficit se creuser chaque année. Les assurances vont d'ailleurs devoir revoir leur contribution à la hausse à partir de 2020.
Voilà, une facture à 119 millions d'euros pour ce fonds de garantie des assurances obligatoires. En Italie, un massacre évité de justesse hier. 51 collégiens ont été pris en otage dans un bus près de Milan. Le chauffeur les a fait ligoter, asperger d'essence et menacer de mettre le feu, invoquant le sort des migrants qui traversent la Méditerranée et que l'Italie ne veut plus accueillir. Les carabiniers ont libéré les collégiens in extremis. Loin des atermoiements américains, après chaque tuerie de masse, la Nouvelle-Zélande interdit la vente de fusils d'assaut et de fusils automatiques, moins d'une semaine après l'attaque de deux mosquées de Christchurch par un suprémaciste blanc. Que s'est-il passé dans un rafale qui décollait hier de la base de Saint-Dizier en Haute-Marne? Un civil de 60 ans, passager de l'avion, a été éjecté apparemment sans raison. Il est à l'hôpital. Le pilote a réussi à poser l'avion dont la verrière a été brisée. C'est un accident extrêmement rare selon le colonel Cyril Duvivier, porte-parole de l'armée de l'air.
Lorsqu'il y a un incident de ce type, on a le droit d'exclure aucune hypothèse. Donc que ce soit un acte volontaire, un acte involontaire, un problème technique, toutes les options sont ouvertes et c'est l'objet des enquêtes que de déterminer ce qui s'est passé. En tout cas, l'éjection normale, lorsqu'elle est préparée, c'est une action volontaire où on vient tirer une poignée d'éjection qui se situe entre les jambes et qui permet, dans un premier temps, de fragiliser la verrière. Lorsque le siège quitte l'avion, c'est lui qui transperce la verrière. C'est un phénomène brutal, parce que vous avez une forte poussée, plusieurs canons qui propulsent le siège. Là, en l'occurrence, le passager est retombé, comme on a dit, dans la phase de décollage, en l'occurrence sur la base aérienne. Il était secouru immédiatement, son état de santé ne nécessite pas d'inquiétude pour nous.
Merci d'écouter Inter, il est 8h11, la suite du journal. Florence Paracuelos.
Pas facile de voir son idole accusée d'agression sordide. Living Neverland sera diffusé ce soir sur M6. On y voit deux adultes qui racontent comment Michael Jackson les a violés lorsqu'ils étaient enfants. Le roi de la pop y est présenté comme un prédateur sexuel. Ce qui ne le fait pas pour autant chuter dans l'estime de ce fan qu'a rencontré Sébastien Sabiron. Certes, il a été ébranlé par le documentaire, mais pas au point de croire tout ce qu'il a vu.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais reparler de Michael Jackson.
Habituellement sur sa chaîne YouTube, Tom, alias Dirty Tommy, parle de cinéma. Cette fois, il fait exception. Impossible, dit-il, de ne pas évoquer Living Neverland, 4 heures qui l'ont bouleversé.
Ah, ça m'a mis la nausée. Alors qu'au début, je le regardais un petit peu du coin de l'œil en me disant que ça allait être un énième doc sur Michael Jackson, pas très intéressant. Et au fur et à mesure du doc, c'était tellement bien fait qu'au bout d'un moment, j'ai eu la nausée parce que il est possible que j'ai aimé quelqu'un de malfaisant pendant toutes ces années, quoi, en gros. Est-ce que j'ai aimé un monstre pendant toutes ces années ?
Mais comme une écrasante majorité des fans, Tom déplore un documentaire partial, exclusivement à charge. Wade Robson, l'un des deux accusateurs, a longtemps nié avoir été abusé par la star avant un revirement spectaculaire il y a 6 ans.
Quand Wade Robson a porté plainte en 2013 contre Michael Jackson, il venait de se faire refouler de la troupe du Cirque du Soleil, donc qui était un spectacle en hommage à Michael Jackson. On est en droit de se poser la question, est-ce que tout ça est vrai, quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas une revanche à prendre ? Ce qui remet grandement en question la crédibilité de ce documentaire.
De son côté, le documentariste Dan Reed assume de ne pas avoir interrogé l'entourage de la star. Son film, dit-il, porte sur les victimes, sur leurs paroles et leurs traumatismes, plus que sur Michael Jackson lui-même.
Sébastien Sabiron, à l'instant, cette information qui reste évidemment à confirmer, les forces démocratiques syriennes ont vaincu l'État islamique à Baghouz. Voilà ce qu'elles affirment dans les médias kurdes syriens. Baghouz, dernière enclave de Daesh en Syrie. Menaces et harcèlement sur le net. Un étudiant de 27 ans a été condamné hier soir à 5 mois de prison avec sursis pour ses messages contre la journaliste Nadia Dam, qui avait simplement critiqué le forum internet jeuxvideo.com. Comment établir des certificats de décès dans les zones où il y a pénurie de médecins ? C'est un vrai problème auquel l'Assemblée a tenté de répondre. Hier soir, les députés ont voté pour que des internes ou des médecins retraités puissent le faire. Ils devront être volontaires et seront rémunérés. Porter des chaussettes dépareillées, ça n'est pas la nouvelle tendance. Mais le mot d'ordre de la journée mondiale de la trisomie 21 pour dire oui à la différence et non aux préjugés que combat Malika, la mère d'une petite fille de 19 mois. Sa trisomie a été découverte à sa naissance.
Quand on y est confronté, on se rend compte, et même nous de toute façon déjà en premier, qu'on ne connaît rien de la trisomie et que c'est très important de pouvoir faire connaître justement la trisomie pour essayer aussi de dédramatiser l'image qui peut être très négative pour certains et des idées qui sont encore sur des idées d'avant. Par exemple, moi je sais que récemment on m'a demandé si ma fille était placée en institution. À 19 mois, ça fait quand même très très tôt. On a une vie comme tout le monde. On a juste un peu plus de rendez-vous médicaux pour tout ce qui est kinésithérapie, pour l'orthophoniste, la psychomotricité. Et donc tout ça, ça nous organise une semaine bien chargée toujours. Et en plus, on a évidemment les rendez-vous médicaux qui vont se greffer pour tout ce qui est suivi. Pas forcément pour des maladies, mais juste pour bien suivre que tout se passe bien. Alors Isalie, ça se passe très bien. C'est une petite fille très joyeuse, très vive, très curieuse. Elle est vraiment... c'est un bonheur, c'est un soleil.
Voilà, on estime qu'il y a 65 000 personnes atteintes de trisomie 21 en France et 8 millions dans le monde. Quant à Malika, elle était interrogée par Valérie Massip de France Bleu Picardie. Enfin, si vous avez l'oreille musicale et la mémoire auditive, vous vous êtes sûrement demandé pourquoi on ne faisait pas des cours en chanson. Ce serait si pratique pour réviser bien les producteurs. Les productions de la start-up StudyTrack sont faites pour vous et qui proposent le programme d'histoire, version rap ou pop. Joe Star, par exemple, dans l'affaire Dreyfus. Voilà ce que ça donne, Antonin Geoffin.
Le capitaine Dreyfus, alsacien d'origine juive, est accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets.
L'affaire Dreyfus rappée par Joe Star, ses lycéens sont partagés.
Eh là, vous me faites ça sur tout le programme d'histoire, ouais. Et j'ai mon bac, mais direct. Si en deux minutes ça récapitule tout ce qu'une fiche peut me donner, pourquoi pas.
Ça va, c'est bien fait. Il parle bien, on comprend bien. On dirait vraiment, vraiment une musique que lui il a faite, pas en cours.
Je déteste, ça n'a aucun intérêt. En vrai, ça aide, mais juste pour la culture générale.
François Larivière, professeur d'histoire dans un lycée des Yvelines, ne note pas d'erreurs factuelles dans ce rap, mais quelques raccourcis et une maladresse française d'origine juive. Résumé en 4 minutes, une affaire si dense, c'est compliqué.
Très clairement, on est sur la surface des choses, et alors particulièrement au lycée en terminale, c'est plutôt un support pour des élèves de collège. On est plus sur l'ordre du gadget que de l'outil pédagogique véritable. Je l'enlève pas d'un revers de la manche, je dis attention, on peut pas se contenter que de ça.
La plateforme à l'origine du concept, StudiTrack, insiste, ces chansons ne remplacent pas un cours. L'objectif, c'est d'intéresser l'élève et d'aider l'enseignant. En avril, la start-up doit d'ailleurs rencontrer le ministre de l'Éducation nationale pour évoquer une collaboration.
Le capitaine Dreyfus est alors réhabilité, participe à la Première Guerre mondiale et meurt en 35.
Antoine Geoffin, pour ce sujet, la chanson peut-elle vous faire réviser le bac? Saviez-vous que Sardou avait chanté Danton et Bachung Robespierre? Ah oui. Vous saurez tout sur franceinter.fr.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Marie-Pierre, quelques nuages résistent.
Et oui, car l'anticyclone qui protège l'Europe jusqu'en Autriche est un peu plus faible sur le nord-ouest et laisse rentrer donc des nuages près de la Manche, où le ciel restera gris ce matin, et de la Bretagne aux Hauts-de-France, le ciel va s'éclaircir dans la matinée. Et puis une très belle matinée aussi vous attend sur les trois quarts du pays, avec en Corse quand même une ambiance un peu moins agréable à cause du vent de nord-est qui vient d'une dépression située sur la Tunisie, et vous aurez sur la Balagne des rafales jusqu'à 80 km par heure. Le ciel ayant été bien dégagé en fin de nuit, bien après des gelées matinales, il fait encore frisquer.
Et du soleil l'après-midi.
Et oui, excepté près du littoral de la Manche. Mais de la Bretagne au Pays de la Loire, à l'est des Hauts-de-France, les nuages vont se morceler et laisser passer quelques rayons de soleil dans une ambiance de plus en plus douce. Et d'ailleurs très contrastée par rapport à ce matin, hein, puisque par exemple à Mont-Marsan, où il a fait moins 1, comptait 18 cet après-midi. À Strasbourg, il fera 16, alors que ce matin, il y avait moins 3. Au plus bas, on attend 13 degrés à Dunkerque, à Langres comme à Biarritz à cause de la brise venant de l'océan. Il fera 14 à Cherbourg et Aurillac, comptait 15 à Brest comme à Pau et Clermont-Ferrand, 16 dans la capitale comme à Bastia, 17 à Bordeaux, 18 de Perpignan à Ajaccio. Et on va avoir 20, voire dépasser les 20 degrés, donc à Nîmes.
Merci, voilà, j'en bafouille. Merci Marie-Pierre.